Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, j'accueille Pierre-Alexis, ou plutôt devrais-je dire Domingo pour que vous puissiez le reconnaître. Si son nom ne vous dit rien, PA est aujourd'hui un des plus grands streamers français, à savoir l'une des personnes les plus suivies en live sur la plateforme Twitch. Quand on pense au stream, on pense souvent aux jeux vidéo, et même si les deux ont bel et bien un lien, le stream est en vérité bien plus que ça, et PA est l'un des premiers à l'avoir compris. En fait, ce qui définit le travail de PA, c'est le partage. Le partage à son paroxysme, le partage en direct, qui lui permet de voir, lire et ressentir les réactions de sa communauté. Là où il est difficile de se faire une place, là où des formats étaient bien installés, PA a toujours eu à cœur de tester, d'innover, ce qui l'a mené à être animateur radio, streamer, ou encore créateur de sa propre émission, Popcorn, un talk show qui ouvre le débat sur de nombreux sujets de société. Honnêtement, ça m'a vraiment fait plaisir d'échanger avec PA et de découvrir un univers qui, je dois l'avouer, m'était jusqu'alors assez inconnu. Je pense que c'est au carrefour de différents univers que l'on apprend et que l'on grandit le plus. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez nous le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et en écrivant quelques lignes sur pourquoi vous l'avez apprécié ou pourquoi vous appréciez ce podcast. Je remercie aujourd'hui Bertille qui a laissé le commentaire suivant. Grâce à toi Louise et à ton podcast, j'ai créé mon entreprise et quitté mon travail pour bientôt pouvoir me lancer à 100% dans mon projet. J'ai enfin pris le pouvoir de ma vie, merci. Merci à toi Bertie pour ce commentaire qui m'a vraiment mis le sourire aux lèvres. Je suis hyper fière de toi et je te souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle aventure. Je vous rappelle aussi que les épisodes d'In Power sont désormais disponibles en best-of sur YouTube si vous voulez ajouter l'image lors de l'écoute de notre conversation ou simplement écouter ou réécouter les principaux enseignements partagés dans cet épisode. Et je suis heureuse de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Domingo. Salut PA.
Salut.
Bienvenue sur In Power. Je suis ravie de te recevoir, même si tu es un habitué du format audio, donc j'ai hâte d'échanger avec toi. Ma première question pour tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils souhaitent.
Ok, très bien. Écoute, je m'appelle Domingo, j'ai 26 ans, enfin je m'appelle Domingo, c'est mon pseudo.
Ça y est.
Mais je suis plus connu là-dessous. PA, c'est pour Pierre-Alexis qui est mon prénom. Et je suis ce qu'on appelle streamer, donc maintenant j'ai un peu moins besoin d'expliquer parce que ça commence à rentrer dans les habitudes des gens, mais je fais du direct donc sur Twitch et aussi un peu de YouTube. De base, j'étais vraiment dans l'univers du jeu vidéo, donc je diffuse du jeu vidéo. Au début, c'était vraiment du conseil. Là, maintenant, c'est un peu plus large, du divertissement. Et c'est toujours difficile d'expliquer ce qu'on fait parce que comme on fait beaucoup de contenu en live, il n'y a pas un seul truc et on ne se cantonne pas à ça. Mais sinon, j'ai aussi créé une émission qui s'appelle Popcorn. Où pas mal de gens me connaissent pour ça et on va discuter un peu plus comme ça les gens pourront mieux me connaître.
Ouais, non mais c'est toujours hyper difficile je trouve de se présenter avec ce qu'on fait parce que bah ouais c'est déjà les gens connaissent pas et puis en plus c'est pas comme si tu faisais que un seul truc, donc bon je pense que t'as bien résumé et en fait je me demande parce que c'est un tout nouveau métier que tu fais entre guillemets, qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais enfant?
Alors il y a pas mal de ça revient assez souvent à chaque fois je répète chez Combini et tout chef et Bauer donc je te reclaque
chef et Bauer, donc déjà
je te reclaque cette anecdote mais c'est du chef et Bauer ici j'ai voulu faire footballeur, je voulais créer une boîte de une entreprise qui vend des lampes à un moment, voilà, c'est ça a pas pu se faire mais peut-être un jour. Non, j'ai pas eu un métier que j'avais vraiment envie, j'ai eu la chance d'avoir une passion qui était le jeu vidéo où j'ai fait de la compétition petit, mais rapidement j'avais envie de me mesurer aux autres et petit à petit j'ai vu une porte qui s'ouvrait et qui pouvait transformer ma passion en métier et j'ai cette chance à l'heure actuelle.
Ok, donc tu t'es pas posé de questions, c'est-à-dire que ça s'est assez vite, tu t'es dit bon, je crois que je peux en faire quelque chose le jeu vidéo, t'es pas passé par une phase de ok, je vais faire des études de commerce, comme
si,
businessman, tu vois.
Ah si, ouais, j'ai toujours voulu être businessman, moi c'est ce que j'aime. Non, j'ai fait une école de commerce, mais vraiment en me disant bah je sais pas exactement ça va t'emmener quoi, c'est un peu la majorité des gens qui font école de commerce aussi, donc j'ai fait un bachelor et j'ai pu, en gros depuis 2013 si tu veux, je stream, donc ça fait 7 ans maintenant. Et vers 2014-2015, j'ai commencé à gagner un peu d'argent. Donc, je me suis dit, OK, je vais peut-être tenter un peu plus, quoi. Mais c'est vrai que je ne me suis pas dit dès le début, OK, trop bien, j'ai 18 ans, je stream, je gagne ma vie avec ça et on s'arrête, quoi. On a dû un peu faire la place pour justement que ça devienne un métier.
Ouais, parce que je ne sais pas si à l'époque, est-ce qu'il y avait déjà les youtubeurs, les créateurs de contenu ou c'était pas non plus, on ne pouvait pas encore en faire son métier?
t'avais des youtubeurs, tu vois, t'avais les gros youtubeurs, les Cypriens, etc. C'était la mode où c'était très compliqué de parler d'argent en plus. Donc, t'avais Cyprien quand il passait qui disait, bah, moi, je gagne 1 300 euros. Enfin, tu vois. Et tu savais que c'était pas vraiment la réalité, ouais, mais, ouais. Mais c'était un peu tabou. Donc, c'était vraiment le tout début. Et c'est à partir de là qu'il y a des gens qui ont commencé, ouais, à pouvoir en vivre. Et en tout cas, le stream, moi, j'étais fan d'un mec qui s'appelle Ocelot, qui est un espagnol qui, lui, en gros, il streamait, il avait des milliers de personnes qui le regardaient, j'étais en mode, mais c'est le feu, sa vie a l'air trop bien. Et depuis, c'est devenu un entrepreneur monstre qui a créé une équipe qui s'appelle G2 eSport et qui est devenue entreprise tentaculaire, quoi.
D'accord. Mais voilà. Et puis, t'avais des modèles.
Ouais, 2-3, quand même.
Bah, ça aide. Et tu vois, c'est con, mais bon, après, je ne vais pas commencer à parler ça tout de suite parce que je pense que ça va refroidir des gens. Mais je me dis quand même, quand t'es une femme dans ce milieu, ça doit être particulier parce que du coup, t'as pas de rôle modèle, quoi. Enfin. Je sais pas, hein. Peut-être que maintenant il y en a, mais de ce que je vois et de ce que je sais, souvent c'est un milieu où en plus les femmes sont hyper sexualisées et donc, bon, bref, rarement reconnues pour leurs compétences ou tu vois.
C'est hyper dur. La place de la femme sur Twitch, c'est un débat qui revient hyper fréquemment, etc. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il y a. En plus, c'est du live, on a de l'interaction donc du coup avec un chat, ce qui fait que les gens peuvent être très virulents. Il y a eu. Déjà un énorme progrès au fur et à mesure des années qui n'est pas encore suffisant, mais il y a quand même une vraie tendance à nous aussi, les streamers un peu plus influents, essayer d'éduquer les gens. Il y a 3-4 ans, pour être un peu choc, mais quand il y avait une meuf qui passait, de temps en temps, il y avait des mecs qui spammaient pute, quoi. Et t'étais là, t'étais bon, on va peut-être pas continuer comme ça en fait.
Ouais,
c'est
ouais,
peut-être,
ouais.
Ça va, c'est pas fou. Ouais. Et donc voilà, ça va mieux, c'est pas encore fou. Les femmes ont eu aussi peur parfois. Moi par exemple, je fais des émissions de talk show où t'es en plateau.
Ouais.
On a, on va dire, entre 40 et 70 000 viewers à l'instant T qui nous regardent quand on le fait en live. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi une peur, une appréhension qui se crée, ce qui fait que c'est encore plus difficile, justement, d'imposer cette place. Mais bon, on essaye de faire en sorte que ça aille mieux, mais ça va prendre encore du temps. Et,
c'est
pas gagné, quoi.
De toute façon, c'est pas le seul milieu, tu vois. Je pense que c'est peut-être encore plus présent dans ce monde du jeu vidéo qui, historiquement, a été plus masculin. Mais ça me faisait penser aussi à ce que tu as dit par rapport à Cyprien quand il disait qu'il gagnait sa vie, tu vois. Je me suis rendu compte des quelques interviews que j'ai pu entendre, des vidéos que j'ai pu voir, que même le sujet de la rémunération, donc là, tout milieu confondu, pas que Twitch, tu vois. C'est vrai qu'un homme qui va dire combien il gagne, s'il gagne beaucoup, tu vois, on va se dire, oh, putain, waouh, il pèse, tu vois, bravo et tout. Une meuf qui dit qu'elle gagne beaucoup, c'est genre, putain, mais quel... Enfin, tu vois, genre...
Ah ouais, tu trouves ?
Ah ouais, vraiment. Enfin, j'ai pu voir, tu vois, de grosses créatrices de contenu qui pouvaient parler d'argent. Tout de suite, on va les accuser d'être des croqueuses d'or, tu vois. Alors que j'ai l'impression qu'un mec qui va dire qu'il gagne beaucoup, c'est plus respecté.
Moi, j'avais l'impression que, justement, ce que je disais par Cyprien, c'est que les gros youtubeurs n'osaient pas dire. Tu vois, n'osaient pas dire.
Les gens ne disent pas trop en France. Hein.
Mais là, récemment, j'avais eu Squeezie dans Popcorn.
Ouais.
On avait fait une interview qui était hyper intéressante parce qu'il était un peu plus lâché lui-même. Et ouais, il te lâche qu'il est millionnaire, qu'il a pris plusieurs millions. Et de manière hyper honnête, hyper sincère, juste sur OK, ouais, c'est une réalité, je vais pas le cacher. Mais je savais pas, ouais, pour les femmes. Et justement, ça a été très bien pris, le truc de. On a un peu passé. Ce côté de en France on peut surtout pas parler d'argent, etc. Il y a encore ça qui est un peu vrai, mais de temps en temps on aime bien les Français s'enfermer là-dedans aussi,
ouais,
et se
ouais.
dire que bah non, c'est nous, c'est les Français, et ainsi de suite, on se cercle vicieux, quoi. Mais j'avoue que j'ai peu entendu femmes discuter d'argent, donc tu m'apprends ça.
Bah, ce serait intéressant peut-être si tu reçois une créatrice de contenu, tu vois, qui potentiellement est millionnaire.
Combien tu gagnes?
Je Bonjour. Pense que là elle va devenir livide. En plus, si c'est du live, c'est encore plus dur. Et ça aussi, je voulais te demander parce que aujourd'hui, t'es hyper à l'aise en live. J'ai l'impression que tu l'as toujours été. C'est quand même un exercice pas facile du tout, qui peut faire peur. Est-ce que t'as toujours eu cette aisance, tu vois ? Est-ce que ça t'as pas eu un peur, un moment, tu vois, de se dire, OK, en live, il n'y a pas de seconde chance, tu vois ?
Bon, en fait, moi, j'ai commencé là. Donc, du coup, j'ai du mal à enregistrer des vidéos YouTube.
Ouais.
J'enregistre une vidéo YouTube, je suis en galère parce qu'en fait, le fait de pouvoir refaire... justement, t'es pas en impro du live où tu vas tenter et quoi qu'il arrive, ce que t'as dit, tu l'as dit, donc faut faire avec et on y va. Non, donc ouais, le live, moi, ça fait, comme je dis, ça fait plus de 7 ans maintenant que je stream, donc que je live quasiment au quotidien, avec entre 30 et 35 heures par semaine. Donc disons que c'est un lien avec les gens. Après, que ça soit un popcorn ou moi, quand je suis dans mon studio, c'est des ambiances différentes. Mais non, j'aime bien c'est ce qui me plaît, on va dire, le côté authentique, le côté de... Ouais, il y a des moments où tu peux faire une vanne, c'est un bide, ok, faut rebondir, faut avoir ce truc un peu d'impro sans que
Que
tu sois un génie de l'impro non plus, hein.
Ouais.
Mais du coup, non, j'aime bien. Il y a un vrai truc authentique, réel, et c'est, je pense, qui plaît aux gens aussi, ce côté de ok, bon, bah, le mec, on est en train de discuter, et il y a des moments, ouais, bah, j'essaye, tu vois, d'aborder certains sujets qui peuvent être pas plus tabous, mais un peu plus compliqués, que ce soit féminisme et tout. J'essaie d'avoir des discussions ouvertes, mais quand t'as 10 000 personnes en face de toi, c'est parfois compliqué, mais c'est des exercices qui sont intéressants, pas loin de la glissade, tu t'intrapes, tu dis des choses, et toujours avec, j'essaye en tout cas le postulat de se dire que je suis pas parfait, quoi, et j'essaie de m'intéresser à des choses. Il y a le côté partage de connaissances que je trouve intéressant, et je pense que déjà c'est quelque chose qu'on doit être dans cette dynamique d'essayer de faire les choses. Et bon, récemment, je crois que t'as essayé aussi.
N'est-ce pas ?
Je crois que t'es dans cette ambiance.
Ouais.
Et après, ouais, voilà, c'est. Il y a l'effort d'essayer de comprendre et de s'ouvrir et de pas juste être fermé en se disant ok, bah je tente rien, je reste dans ma zone de confort et quoi qu'il arrive, je comprendrai pas les autres, mais
ouais.
C'est pas ça hyper positif.
Non, c'est sûr. Faut prendre des risques en effet pour faire bouger les choses. Et est-ce que tu te souviens d'un moment particulier où t'as quand même senti une petite traversée du désert? Genre, un moment où, je sais pas, t'as voulu tenter un truc, ça s'est pas passé comme tu l'aurais voulu.
En live?
Ouais, en live, ouais. Je me dis, c'est pas possible qu'en 7 ans de stream, il n'y ait pas un moment où t'as eu chaud, tu vois.
Si, il y en a. Il y en a après de base, je fais quand même du divertissement, du jeu vidéo. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur sur du sujet politique, etc. Moi, assez fréquemment, justement, les gens, que ce soit 2017, mais c'est un peu plus loin, tout ce qui est élection, etc. Il y a des moments où t'as pas envie, le côté influenceur, etc., justement, d'influencer les gens sur tes avis, essayer de les convaincre à tout prix. Moi, j'essaye d'essayer d'ouvrir l'esprit des gens. Et c'est vrai que sur Twitch, on a une grosse, grosse communauté de mecs. Et donc, du coup, il y a 4 ans, c'est un sujet bête, mais je parlais de « tu te mets de la crème hydratante ». Je me faisais insulter, mais dans tous les sens, tu vois. Genre,
ah ouais.
Mais ça reste de l'insulte où... ça qui est difficile, c'est que tu mets un tweet, tu te fais insulter, c'est incontrôlable. Tu peux plus gérer. Tu es en live... Tu dis un truc, que ça soit vrai, faux ou autre, n'importe quoi, tu te fais insulter, tu peux rebondir, retourner, essayer de faire des pirouettes. Donc en fait, c'est beaucoup ça, il n'y a pas de moment. Si je vois que je vais parler d'un sujet où les gens sont pas du tout réceptifs, ou alors, bon, bah, ça matche pas, ou alors j'ai dit une connerie, ok, bon, bah, je vais pas me faire une demi-heure dessus en allant dans le tunnel de je ne lâcherai pas, c'est aujourd'hui, tu vois. Donc, donc non, c'est plus. C'est plus une ouverture, c'est sans que ça soit un débat non plus, parce que les gens, c'est les messages défilent quand t'as plus de 10 000 personnes, forcément ça va très vite. Mais c'est de l'ouverture, c'est pas t'as fait ta vidéo, point, c'est terminé, tu postes, ok.
Non mais je vois, parce que si je compare à ce qui s'est passé pour ma part à Noël, c'est vrai qu'une fois que le post est fait, en fait moi j'ai beau essayer d'expliquer par tous les moyens possibles que ce n'était pas une collaboration avec Nana, que c'était un but solidaire, une collecte, que j'étais pas rémunérée pour faire ce post, etc. En fait, à partir du moment où les gens se sont fait une opinion, c'est vrai que je vois l'avantage du direct... où tu peux encore, entre guillemets, les faire changer d'avis, même si c'est pas le but, mais en tout cas, leur montrer quelle était ta démarche.
Ouais.
Alors que j'avoue qu'une fois qu'un truc est fait...
Après, il y a eu aussi un côté tellement viral qui fait que le live, il y a aussi ça. Il y a aussi, on peut prendre un extrait de toi de 10 secondes, boum, on le met...
C'est vrai, hors contexte.
Et toi, t'as expliqué tout un truc autour et c'est fini. Et, donc, c'est aussi une réalité, mais c'est vrai que toi, t'as un exemple qui est... je sais pas combien de gens ça a pu toucher cette campagne, mais des millions de personnes, donc c'est incontrôlable et c'est différent. Là où les lives sont encore dans des proportions... tu vois, je te dis, Popcorn, c'est l'émission qui marche le mieux sur Twitch. On fait 70 000 personnes en live, alors ce qui est énorme, ce qui est loin des audiences télé, par exemple, encore. Mais c'est vrai que c'est pas non plus d'un coup, boum, je parle devant 5 millions de personnes et j'ai dit une énorme connerie et je me retrouve en top tendance.
Ça t'est jamais arrivé d'être en top tendance
Si, t'as des...
Mais plutôt pour des trucs cool ou des trucs...
Les deux. Non, j'ai pas un énorme... j'ai pas un énorme bad buzz, là. Je réfléchis un peu. Ça m'angoisse de temps en temps.
Ouais,
je me dis,
non, mais comme tu dis, il faut pas vivre dans l'angoisse parce que sinon tu fais plus rien, quoi. Donc.
C'est ça. Et après, j'ai aussi une position. Comme je te dis, je suis pas politiquement hyper engagé et j'essaye d'être un peu curieux, tu vois, d'essayer d'ouvrir des choses que parfois, je connais pas.
Ouais.
Donc, essayer de m'intéresser justement à tout ça. Est-ce que j'avais trouvé bien aussi avec ton poste, tu vois, c'est sur une communauté très masculine. Il y a beaucoup de gens, tout ce qui est précarité menstruelle, etc. On connaît rien.
Ouais.
On connaît rien. Et c'est vrai que maintenant, on est dans une époque où il faut s'éduquer, il faut s'intéresser, et c'est vrai, mais il y a tellement de sujets sur lesquels il faut être éduqué qu'il y a des moments où c'est difficile d'arriver et de dire je ne sais pas tout là-dessus, je vais prendre des pincettes, et c'est là où ça devient compliqué. Donc c'est justement le faut trouver l'équilibre, quoi. Et c'est ce que j'essaye de faire. Donc oui, il y a des moments où je suis en mode, alors ne pas utiliser le mauvais mot, même si on essaye de bien faire.
C'est clair, et c'est clair. Mais bon, je pense qu'aussi le live aide vachement à ce niveau-là, parce que je pense que tout le monde voit que tu fais de ton mieux. Tu vois, c'est en effet, ils se font pas une idée d'un contenu, ils te voient et ce que tu dégages. Et du coup, je trouve que c'est il y a peut-être aussi après des gens plus énervés, mais il y a aussi plus de bienveillance, de oh, en fait, c'est un humain en face de moi.
Ouais, qui essaye de se poser des questions. Il y a des gens qui sont pas d'accord, il y a des gens qui sont d'accord. Alors, c'est clair que par exemple, les chats, bon, bah, c'est comme tout, c'est-à-dire que les gens, la majorité silencieuse qui sont d'accord avec toi, qui sont potentiellement intéressés, découverte, bon, bah, ça va pas être les gens les plus engagés, mais ça, comme quand tu vas sur n'importe quel sujet, quoi, c'est les gens qui sont radicalement contre ton propos qui vont le plus monter au créneau.
Ouais.
Et si tu te concentres que sur ça, c'est dangereux pour toi aussi. Ouais. C'est bien de le savoir et pareil de se dire, ah ouais, ok, d'accord. Là, c'est là que j'avais peut-être mal abordé le truc. Donc, ça permet de te remettre ton idée en perspective.
Carrément. Est-ce que ça a été difficile pour toi de prendre un peu de recul quand des haters ont commencé à arriver, tu vois, parce que je pense que je cherche encore une personne qui en a été exempte. Ouais, comment t'as géré peut-être les personnes qui ne comprenaient pas ce que tu faisais, qui n'appréciaient pas ce que tu faisais, parce que, bon, en plus, c'est sur Twitter. Moi, je ne suis pas sur Twitter, qui est quand même un réseau hyper virulent.
Ouais.
Alors, encore une fois, j'ai l'impression que tu n'as pas trop pris tarif, et tant mieux. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui t'ont critiqué.
Je maîtrise le feu. je possède la maîtrise du feu depuis quelques années.
C'est une belle compétence, ça.
Non, c'est fou la différence entre Twitter, Insta, et je le découvre... parce que je suis sur Insta, mais j'ai pas énormément de followers, ni enfin si que ça va, mais par rapport au très gros, je dois avoir 250 000, donc ça va quand même, mais j'ai pas la même communauté que sur les autres réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est une bienveillance, mais je pense qu'il est aussi lié à à l'effet de groupe, parce que c'est vrai que sur Twitter, il y a cette vraie tendance à, là, la mode du moment, c'est ratio, c'est-à-dire tu mets ratio sous un tweet, et si t'as plus de faves que le mec du dessus qui a dit n'importe quoi, bon bah c'est un peu la recherche de buzz de tu peux être le mec du fond de la classe qui fait la vanne qui va faire rire tout le monde, quoi. Et du coup, ça donne très envie aux gens et parfois ça les pousse à être dans tu vas faire, c'est triste mais c'est la réalité, tu fais plus rire les gens parfois en étant méchant ou en taclant quelqu'un qu'en disant c'est génial ce que tu fais.
Donc,
moi j'avoue que j'ai la chance d'avoir quand même une communauté assez bienveillante dans l'ensemble. C'est vrai que tu me demandais quoi de base
Non, pardon,
j'ai eu Twitter.
T'inquiète, t'es dans le truc. Je me demandais comment t'as fait pour passer outre les critiques qui commençaient à venir et passer outre le fait que tout le monde n'aimera pas ton travail, parce que tu vois, dans les faits, je pense qu'on accepte, on a tous conscience que tout le monde peut pas aimer ce qu'on fait, mais quand on y est confronté, c'est pas toujours facile.
Disons qu'en plus Twitch et le live, c'est vraiment le t'es face à ça. C'est-à-dire que concrètement, un live Twitch, c'est comme là, ça pourrait être un live Twitch, juste que on a un chat, il y a quelqu'un qui peut te poser une question, ah, c'est intéressant, on rebondit dessus, et ça t'amène, ça te fait tirer l'histoire du live. Mais tu peux lire un message en pensant que ça va être une question et lire t'es moche, fils de pute. Tu vois, pour rentrer un peu dedans. Et récemment, j'avais fait un petit concept, tribunal de Twitch, où en gros, donc t'as tout un système de modération qui est hyper important sur Twitch, justement, pour avoir quelque chose de lisible et correct. Et où ce qu'on appelle le doc des enfers, mes modérateurs en fait bannissaient les gens et ils mettaient dans le doc la raison de pourquoi. Et on a ça depuis 4-5 ans où j'ai des milliers de personnes qui sont bannies et tu vois des trucs, c'est horrible. Tu vois, je fais un live avec ma sœur sur peut-être 100 personnes qui sont bannes avec des messages mais qui sont atroces, quoi. Donc très vite en fait t'es confronté à ça quand tu live, tout comme tu l'es sur YouTube. Et YouTube c'est pareil, YouTube t'as 100 personnes qui te disent putain ta vidéo est incroyable, il y a un mec qui va te dire pas trop aimé ça, je trouve que t'es un peu idiot,
tu retiens que ça,
ouais, t'es là-dessus, quoi.
Ouais.
Et Donc, ça reste présent, le fait de quand quelqu'un te dit un truc négatif, t'es pas aux anges. Mais t'es forcé un peu de te mettre des barrières instantanément sur Twitch. Parfois tu peux arriver, quand tu fais des collaborations, t'arrives sur une autre chaîne, c'est du live, les mecs t'aiment pas, ils te le disent, quoi.
Ouais.
Donc, y a des moments où t'es là, tu le prends plein fouet. Et après, comme je te dis, il y a eu aussi un peu cette tendance à la bienveillance, sans que ça soit de la bienveillance gnangnan un peu, tu vois, mais juste de on se respecte. En fait, on se respecte. Si lui invite lui, c'est qu'il y a une raison et c'est que c'est plutôt cool. C'est pas pour autant que t'es obligé d'être en accord avec tous les propos de cette personne, mais tu le respectes. C'est quand même la base.
C'est
difficile de devoir
évident,
expliquer ça. Mais bon, c'est Internet, c'est les codes. On a quand même la chance d'avoir un métier où on peut faire ce qu'on veut, etc. Donc, c'est un peu le contre-coup et il faut vivre avec, quoi.
Ouais. Comme tu dis, de toute façon, avec ce qu'on fait, ce serait difficile de vivre sans. Pour revenir un peu à tes expériences pro, alors je pense que j'ai pas tout en tête. Je sais que t'es passé par la case radio, que t'es passé par là, t'avais une émission sur énergie.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu, pourquoi ça s'est fait, comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est arrêté, parce que c'est je pense, enfin, ouais, t'es un des seuls créateurs de contenu que je connaisse qui est allé dans le monde plus traditionnel des médias.
Ouais, j'ai fait... juste avant, j'avais une émission de télé sur Bein, qui était en gros un peu un tout le sport, version e-sport, donc actualité, jeux vidéo, e-sport, gaming,
etc. Chroniqueur, un peu télé...
présentateur, ouais. En gros, on était deux, okay. Et c'était un format de 26 minutes où on présentait, on avait des invités, des petits magnétos et tout. C'était très sympa, mais très cadré comme format, c'est-à-dire avec des fiches ou... Mais c'est cool, ça te fait une expérience... Je répète ça assez souvent, mais j'aime bien les expériences comme ça où c'est hyper challengeant, hyper stressant. Mais d'un autre côté, bon, bah, t'arrives dans un nouveau milieu, boum, énorme plateau, la télé, quoi. T'as 26 caméras, tu peux gérer tes angles de câble et tout. Mais c'est cool, tu vois, il y a un truc d'apprentissage, mais au bout d'un moment, tu fais un peu le tour aussi parce que quand t'as la chance d'être aussi libre qu'on est en tant qu'influenceur, entre guillemets, créateur plutôt, arriver dans un format où t'es hyper cadré et tu décides de rien. C'est moyen. La radio, ça s'est fait l'année d'après, c'était en 2017. 2017, où en gros, NRJ a. Bon, les radios, ils ont aussi. Ils sont dans la réalité, quoi, de devoir se renouveler l'audience, à part France Info et les quelques chaînes Inter et compagnie. Bon, bah, toutes les radios, surtout les musicales, elles sont quand même en chute libre, quoi. C'est la réalité. Et du coup, ils se disent, bon, bah, comment est-ce qu'on peut rajeunir notre audience? Comment est-ce qu'on peut toucher des gens qu'on va pas forcément toucher autrement? Et en fait, le Morgan Serrano, qui était le boss à l'époque, qui est parti puis revenu, je crois, en fait, était un gros gamer. C'est un mec qui se bute à WoW, quelqu'un qui est extrêmement gentil aussi. Et du coup, bah, il connaît Twitch, en fait. Il connaît Twitch et il se disait, bah, entre un animateur radio qui doit animer une émission, présenter, et un streamer qui va pendant allez, 4, 5, 6, 7, 8 heures parler non-stop à des gens, animer, divertir, etc. Il y a quand même des similitudes. Donc on s'était rencontrés, on avait discuté de tout ça, et il y avait eu un premier test qui s'était fait, qui avait été plutôt concluant, j'avais formé ma petite équipe, et ensuite, bah, du coup, j'ai été aux commandes du dimanche soir de 20h à minuit pendant 2 ans. Ou pareil, c'était une très bonne expérience de... Ouais, c'était tu dois apprendre beaucoup de choses, t'es un peu dans le stress de ok, il faut pas de blanc, donc ok, machin, qu'est-ce qu'on fait. Et t'apprends, et au bout d'un moment, le souci, c'est que c'est à peu près ce qu'on faisait. Il y a beaucoup de similitudes avec le stream parce que c'est discuter de sujets. On va dire qu'il y a aussi la radio très formatée de certaines émissions où vraiment les mecs ils ont limite un runner avec ok, moi je dis ça, toi tu réponds avec ça, qui est la vanne, tout le monde rigole là, et un peu la flemme de faire ça. Donc nous on y est allé, ok. De quoi est-ce qu'on veut parler? On fait des petits jeux, on discute de certains sujets. Le souci, ça a été publicité musique, ce qui n'est pas une surprise quand tu arrives chez NRJ parce que c'est une musicale, donc tu sais qu'ils vont devoir passer des musiques. Mais c'est vrai que sur 4 heures d'émission, tu as en gros 2 heures et demie de discussion pour 1h30, 2 heures de musique pub. En gros, tous les 10 minutes, tu as une coupure, tu lances un disque. 2 fois par heure, tu mets 5 minutes de pub. Donc, c'est vrai que ça te casse un peu le rythme.
Ouais.
Et en fait, bon, bah, j'ai pris de l'expérience. J'ai bien aimé quand même si sur la fin, c'est vrai que je commençais à... en fait, les gens aimaient. Les gens adoraient le concept, etc. Parce que je l'ai aussi rediffusé sur Twitch, ça. Donc, ça a été un peu une première pour les radios de se dire « Ok, on peut être aussi sur Twitch. » Ce qui fait qu'ensuite, il y a Skyrock... Skyrock, Fun Radio et tout, qui est en mode ok, let's go, on tente. 60 viewers, bref, dommage. Mais ouais, non, c'était un vrai essai. Mais c'est clair que sur Twitch, bon, bah, t'arrivais, boum, tu te connectais, tu vois une pub, tu vois une musique, tu restes pas, quoi. Donc, on a fait ça pendant 2 ans et ensuite, on s'est dit que c'était l'occasion de en fait faire la même chose que ça en mieux sur Twitch avec nos moyens. Et c'est ce qui a créé, c'était la genèse de Popcorn, qui a à peu près la même idée, sauf qu'on n'est pas coupé, quoi.
Ouais.
On peut juste discuter, parler. L'émission, elle va durer de temps en temps 2 heures, de temps en temps 2h45 en fonction. On n'est pas cadré et c'est assez plaisant.
Ouais, bah, j'allais te demander la genèse de Popcorn, donc c'est une super transition. Donc c'est vraiment en quittant la radio que tu t'es dit... En fait, ouais, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que t'allais créer vraiment une émission qui n'est plus du tout centrée autour du jeu vidéo? Est-ce que tu continues quand même à streamer à côté? Parce que je crois qu'en fait, t'as une prog, toi. C'est genre, tu vas nous dire combien de fois par semaine, mais c'est du non-stop. Et ouais, qu'est-ce qui a fait que cette émission qui change vachement de ce qu'on avait pu voir sur Twitch, bah, tu t'es dit, faut qu'on le fasse?
Bah, ce que je te dis, en fait, c'est le fait de radio où déjà on parlait de l'actualité, on continue à parler de l'actualité jeux vidéo parce que ça reste ma passion, ça reste quand même mon cœur de métier. Je fais plus que ça, mais ça fait partie clairement de mes gros centres d'intérêt. mais là où c'est beaucoup plus ouvert, quoi. C'est beaucoup plus ouvert, on va parler de plein de sujets. Je pense que c'est un peu un tout. Il y a eu aussi une ouverture sur Twitch, comme je te le dis, où avant c'était un truc un peu très hardcore entre nous, les gens avaient le côté puriste, non. Et là maintenant, Twitch a pris des proportions qui sont, enfin, qui est quand même assez énorme. Récemment, là, il y a deux jours, trois jours, il y a eu le record de viewers, un espagnol qui a fait 2,4 millions de viewers
sur sa chaîne. En live.
En live, tout seul sur sa chaîne, dans sa chambre, il y a 2,4 millions de gens qui le voient. Et du coup, tout reste quand même très lié au jeu vidéo. Ouais. C'était un peu lié à Fortnite en l'occurrence. Mais ouais, en fait, c'était un pari parce qu'on s'est dit, ok, comment est-ce que ça va marcher? On sait pas trop. Mais il y avait une certaine logique dans le sens où moi, je stream le lundi soir. Généralement, tous les lundis soirs, je suis en stream. En gros, j'ai une prog chaque début de semaine, je mets ma prog, mais c'est assez récurrent. Généralement, je fais lundi soir, mardi soir, du coup, il y a Popcorn, 20h, twitch.tv/domingo. Non, donc du coup, il y a ça. Et ensuite, ça va être soit le mercredi soir, jeudi soir. C'est un peu en fonction aussi de moi, ma semaine, mes rendez-vous, ce qui fait que j'ai mes habitudes et j'habitue les gens à certaines choses. Et de temps en temps, il y a des événements en plus. Tiens, on me propose jeudi soir, par exemple, Squeezie fait des soirées. Tiens, je vais participer. Du coup, là, je stream le jeudi soir. Ce soir, je fais un match d'échecs contre Sardoche, par exemple. Enfin, donc, du coup, c'est plein de choses différentes. Et c'est ça que moi, j'aime. C'est un peu ça aussi avec la télé où je fais 2 ans, la radio où je fais 2 ans. J'ai tendance à me lasser un peu des choses au bout d'un moment. Et j'ai besoin de, sans que ça fasse le mec, j'ai besoin de me challenge en permanence. Tu sais, je suis hyper. Non, mais sans que ça soit ça, mais de créer des nouvelles choses. J'avais bien aimé aussi amener le sport sur Twitch. C'est un truc qui m'avait beaucoup tenté. J'avais créé justement des matchs de foot entre streamers. J'avais couru le semi-marathon il y a 2 ans de ça. Et c'était très nouveau d'avoir du sport sur Twitch et les gens ont adoré en fait. Donc on va dire que c'est pas non plus des défis, tu vois, de se dire ok, je vais faire un talk show sur Twitch. Il y en avait déjà des un peu plus petits, un peu plus spécifiques, mais. C'est pas non plus comme si je tentais le défi impossible, je marchais sur la ligne, tu vois. Donc on s'est dit que c'était le moment et qu'il fallait essayer quelque chose. Et là, c'est la deuxième saison, ça fait 1 an et demi et ça a l'air de plutôt plaire aux gens. Ouais, donc c'est
ouais.
Cool.
Ouais, moi, c'est comme ça que je t'ai connu, je crois. Camille qui m'a montré l'émission. Et c'est vrai que moi, il y a encore, du coup, c'était en octobre que j'ai rencontré Camille, donc là, il n'y a pas si longtemps. Et on s'est mis à parler de Twitch parce qu'elle, c'est un ces gros sujets. Et tu vois, elle me dit, toi, du coup, tu regardes et tout. Je suis là, non, moi, je joue pas aux jeux vidéo, tu vois. Et
normal.
En fait, j'avais vraiment cette. Et elle me dit, mais attends, mais Louise, Twitch, c'est plus du tout que les jeux vidéo et tout. Et je suis là, ah bon? Genre, et c'est vrai qu'il y a quand même une méconnaissance encore. Donc, j'espère que les personnes qui nous écoutent vont être curieux et aller voir. Et c'est vrai que j'ai été admirative. En fait, c'est vrai que maintenant, je vois plus ça comme une plateforme de live. Et je pense qu'en effet, c'est comme ça que ça va évoluer et que peut-être les jeux vidéo ont été l'entrée et restera des sujets de prédilection, mais où les gens pourront en effet se diversifier. Et je comprends totalement l'envie de diversifier parce que j'ai la même chose. Et tu te dis pas parfois, un moment, ça va pas être possible en fait. Enfin, tu vois, tu te dis pas parfois, tu stresses pas parfois de te dire, je peux pas changer tous les 2 ans, il y a un moment.
Non, en fait, c'est pas non plus un. C'est pas un besoin. Là, je me dis pas, ça arrive, on arrive dans la deuxième année de Popcorn, bientôt la fin, qu'est-ce que je fais après? En fait, c'est juste que quand. Le cadre qu'on t'a mis autour de toi n'est plus. Enfin, t'as plus l'espace.
Ouais.
Tu le casses pour en avoir un autre. Si le cadre, il évolue avec toi et avec tes envies, ça se passe en fait.
Carrément.
Donc, c'est cette chance et cette liberté aussi. Sur Twitch, il y a des contraintes, par exemple, par rapport à un YouTube où YouTube, t'as percé il y a 2 ans, 3 ans, t'as fait des vidéos qui marchent de fou, t'as 2 millions d'abonnés, t'auras 2 millions d'abonnés à vie. Twitch, tu peux avoir 1 million d'abonnés, c'est du live. C'est-à-dire que si t'as fait 250 000 viewers il y a 2 jours, c'est plus marqué quoi.
C'est un
peu comme la télé, c'est culture de l'instantané.
Ouais,
quoi.
C'est vrai.
Du coup, il faut frapper fort assez souvent, il faut être créatif parce que. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a une compétition saine aussi, de juste tout le monde a cette liberté, tout le monde a des envies, donc du coup, tout le monde met ses projets en œuvre et c'est ce qui crée cette globalité de choses. Alors. Ça reste quand même majoritairement du jeu vidéo. Hein. À l'heure actuelle encore, il y a de la diversification. Mais tu arrives sur Twitch n'importe quand, c'est quand même principalement du jeu. Par exemple, tiens, Samuel Etienne, qui lui a découvert Twitch, donc présentateur de questions pour un champion sur France Info de la matinale. Il s'est lié d'amitié à un streamer qui s'appelle Étoile, qui est passionné de culture, qui est passionné de culture, on va dire. Il faisait du react, donc d'émission, donc question pour un champion. Et ça marchait super bien, quoi. Il a réussi à avoir Samuel Etienne, du coup, en invité une fois. Ils se sont liés d'amitié. Samuel Etienne, désormais, tous les matins, quasiment, il fait donc la matinée Etienne. où il fait une revue de presse des différents journaux en live. Là, en ce moment, il y a entre 10, 15, 20 000 viewers qui regardent ça. Et c'est trop bien. Tu te réveilles le matin, un peu comme la radio, tu vois. Mais avec Samuel Etienne, journaliste quand même de renom, qui te fait un petit débrief de ce qui s'est passé. OK, dans le Figaro, il y a un article très intéressant qui est sur ça. Et c'est bien, justement, le fait qu'on ne voit plus... on va dire qu'il y a encore des puristes qui sont vraiment sur le côté OK, il faut que du jeu vidéo sur Twitch. Moi, j'ai pas envie du tout que ça disparaisse. Ça reste l'ADN de la plateforme et c'est l'intérêt principal. Mais c'est bien qu'il y ait d'autres choses autour et c'est ce qui fait que y a plein de nouveaux curieux qui sont arrivés récemment.
Carrément. Tu fais quand même un métier hyper prenant. Déjà, le fait d'être créateur de contenu, c'est hyper prenant parce que t'as pas vraiment de vacances ou de week-end. Mais alors, le métier de streamer encore plus. Comment tu le vis, ça? Parce que t'as 26 ans, c'est ça?
Ouais.
La moitié, si ce n'est plus, de ta semaine est consacrée au stream. Est-ce que, parfois, tu ne trouves pas ça trop, too much?
Moi, j'ai pas mal... je suis un peu un ovni là-dessus. Pendant très longtemps, je faisais 6 jours sur 7, 18h, 23h, ce qui fait que, concrètement, ma vie sociale a disparu. Donc, au bout d'un moment, plus tu grandis... plus justement t'as envie de ne pas être que le mec qui fait du jeu vidéo et qui va donner des tips sur le jeu vidéo, en fait t'as rien à raconter autour. Et la force aussi des lives et de moi, ce que j'aime faire, c'est vivre des expériences et derrière les partager, raconter. Il m'arrive pas mal de galères, moi, que ce soit plomberie ou autre, donc j'ai du stock. mais en fait j'en ai eu un peu marre de ça et je me suis dit OK, ma vie professionnelle est passionnante, honnêtement tu peux rentrer dans un tunnel et faire que ça, sauf que quand je suis pas en live, j'étais malheureux, quoi. Donc t'as ce truc de hyper hype, t'as 25 000 personnes, tu coupes, t'es tout seul. Bonjour. Du coup, c'est un peu ça pousse pas à la schizophrénie, mais t'es
Une petite addiction, un petit rush d'adrénaline,
c'est un peu perturbant. Et du coup j'ai voulu mettre un cadre en streamant, donc un peu moins. Moi je stream pas le week-end, par exemple, de temps en temps quand il y a des événements, etc., mais pour avoir aussi une vie de couple un peu plus définie, quelque chose qui te permet d'avoir une vie sociale normale et avoir aussi une activité professionnelle qui est atypique puisque créateur de contenu. Donc j'ai eu envie de me laisser un peu plus le temps tout en travaillant un peu plus. Ça a joué aussi avec le fait que je crée ma boîte. Au début, j'ai eu un mec qui m'a aidé, qui est devenu mon associé. Là, on va bientôt changer de locaux parce qu'on a pris il y a 2 ans des locaux. C'était en mode déjà waouh, c'est énorme. Là, on va prendre quasiment 2 fois plus grand. On va être 9 bientôt dans la boîte. Donc, ça a joué avec le fait d'essayer de se structurer un peu plus, grossir sans que ça soit incontrôlable et que ça devienne justement ça perd le naturel.
Ouais.
Mais c'est un équilibre qui me fait du bien parce que dans ce côté authentique, tu peux pas être authentique si t'es malheureux, que tu joues un rôle ou que t'as pas envie de faire ce que tu fais. Et là, j'ai un cadre qui est bien, qui me permet d'avoir du temps avec les gens. Je stream beaucoup moins que les autres. C'est-à-dire que sur la plateforme Twitch, il y a facilement des gens qui streament 70 heures par semaine, ce qui leur prend énormément de temps. Et la réalité, c'est que si tu veux percer sur Twitch, t'es obligé d'être quand même beaucoup, beaucoup là, quoi. Et nous, on s'est dit, OK, j'ai envie de t'entendre faire des événements qui vont être un peu forts, qui vont rassembler les gens, réunir. À côté, moi... être juste en lien avec mes viewers, partager des choses, jouer, et de temps en temps des popcorn, etc. Donc c'est un peu tout
l'écosystème.
C'est ça. Mais chacun fait à sa manière. Moi, en tout cas, c'est ce qui me permet d'être performant, entre guillemets, et à côté d'être heureux personnellement.
Ouais. Ça n'a pas été trop difficile, cette phase de structuration, parce que t'as commencé tout seul. Comment ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que t'as eu du mal à trouver les bonnes personnes? Est-ce que ça n'a pas été aussi un peu... c'est quand même quelque chose, tu vois, de créer une entreprise qui n'est pas pareille qu'à la base juste de la création de contenu ou du stream. Comment t'as vécu un peu cette phase de OK, maintenant il faut que je crée une société, que je paye des impôts
C'est le rendez-vous avant, c'était le comptable.
On adore.
Mais c'est chiant, je suis pas très fort là-dessus sur le côté administratif, mais c'est les besoins. J'ai rencontré Théo, qui est donc du coup mon associé en 2015, qui de base m'avait juste proposé de faire un site, etc. Et depuis. A pris beaucoup de place, donc qui a aussi un rôle important, on va dire, de managérial, parce que quand t'es 30-35 heures en stream par semaine, c'est compliqué de gérer les gens qui bossent pour toi, et si t'es pas là du tout, en fait, le bateau, il va pas...
Carrément.
Il va nulle part, quoi. Donc, il y a des gens qui disent que, justement, j'ai eu un peu cette force de m'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est parce que j'ai toujours joué à Football Manager. Je vois le potentiel. Je vois le potentiel dans les gens. Non, mais j'ai eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes. Après, j'ai fait en sorte aussi Mais c'est vrai que oui, c'est des décisions et chaque étape entre le moment où t'es juste solo, t'es deux, tu prends, enfin t'es un peu plus, tu prends des locaux, ok, les CDI, tu prends quelqu'un en CDI, c'est des responsabilités, c'est tout ça.
Et tu payes deux fois plus quelqu'un en CDI qu'en freelance.
Ah ouais, c'est, ah, les CDI, le CDI, c'est un truc. Hein. Là, on est 7 CDI, ouais, c'est quelque chose quoi. Mais
ça s'est fait assez naturellement, quoi. T'as pas eu de moment de panique ou de.
Si, il y a eu un peu de panique, il y a eu un peu de tout ça. Mais on a la chance, tu vois, par exemple, 2020, bon, bah, il n'y a pas eu de coup dur pour nous. Tu vois, au contraire, il y a des gens qui ont découvert Twitch beaucoup avec le
confinement.
C'est vrai,
tiens, ça s'est passé comment pour vous
C'est incroyable.
Ah ouais.
En vrai, c'est
incroyable. Mais au début, PLS un peu, non? Genre, parce que Popcorn,
en fait,
c'est dans des.
Tout le côté événementiel est mort.
Ouais.
Mais comme tout le monde. Ouais. Et donc, du coup, bon, bah, les gens s'attendent
tu
à ça, tu vois. Donc, c'est pas. C'est grave, mais. Pas tant que ça par rapport à la situation. C'est-à-dire, on est quand même dans une pandémie mondiale. Donc, le moment où t'es en mode merde, je peux plus organiser mon five, comment je fais? Bon, il y a pire. Non, mais c'est juste qu'en fait, ça a permis des crossovers et ça a permis de pas normaliser la plateforme, mais de la démocratiser, quoi.
Ouais.
Antoine Griezmann qui est venu stream.
Ah ouais?
Ah ouais, il y a.
Avec vous ou...
Ouais, je suis devenu pote avec Antoine Griezmann, avec des Gaël Monfils. Les gars sont en mode putain, mais c'est incroyable de faire une game avec toi. Le mec, il me DM son numéro en mode si tu veux refaire des games, je suis là, que se passe-t-il?
Ouais,
Donc tout ça en fait a permis justement de occulter un peu le truc de ah ouais Twitch en fait il y a pas que on va dire le côté geek tu vois le geek qui passe 15 heures par jour sur sur le jeu donc ouais on a eu cette chance beaucoup de gens qui ont découvert la plateforme qui ont découvert le stream le live avant c'était vraiment YouTube maintenant c'est devenu normal tu parles de tes YouTubers c'est commun tes streamers ça va mettre encore un peu de temps. Donc ouais, on a quand même eu cette chance, même niveau marque, d'un point de vue business, beaucoup, beaucoup de marques qui se sont rendues compte que bah, c'était intéressant.
Ouais.
Aller foutre 2 millions dans une affiche dans le métro, bah, quoi qu'il arrive, tu pouvais plus le faire.
Ouais.
Et que les budgets par rapport à l'engagement des gens, c'est surtout ça. Sur Twitch, il y a moins de viewers, mais les gens que tu touches, ils sont très engagés, il y a un lien. Et justement, dans ce côté, tu vois, développement, par exemple, de mon entreprise et tout, il y a une relation qui est hyper naturelle et hyper sincère avec les viewers de... Ils ont envie que tu gagnes de l'argent pour que tu grossisses, pour que tu crées des projets. Et entre guillemets, ils savent que tu as de bonnes idées et que derrière, eux, ils vont avoir du divertissement qui reste gratuit. Tu vois, ils ont cette logique.
Ils ont cette conscience.
Ils ont cette logique qui est assez cool et qui nous permet d'être assez libres. Typiquement, un popcorn, c'est un gouffre. Dans le sens financièrement, on a voulu cette année prendre un plus gros plateau, donc du coup, il y a plus de gens qui bossent dessus, etc. Ça demande beaucoup d'argent, donc on a besoin de sponsors. Et il y a une bonne relation entre les marques qui comprennent ça, qui du coup tentent l'aventure, parce que ça reste nouveau pour elles, et les viewers qui sont en mode ok, bah, c'est trop bien ce que tu nous proposes. Tant que c'est pas des sponsors, tu vois, genre horribles, etc. Là, ça va, c'est plutôt cool. J'ai la chance aussi de. Tu vois, je suis sponsoré par Intel, par Logitech, par Adidas. C'est quand même des sponsors assez...
Ouais, qui sont même appréciés de la,
assez sympa,
de la communauté. Quoi.
Assez sympa.
Ouais,
donc, ouais. Donc non, ouais, ça se fait assez naturellement, mais ça reste des questions et beaucoup de temps. Mais on ne le compte pas trop. Et je pense, comme tous les gens qui sont soit entrepreneurs, soit créateurs de contenu, tu as envie que ça avance ce que tu fais. Quoi.
Ouais. Mais bon, et c'est là aussi parfois le risque, parce que du coup, comme ça n'avance que... Enfin, pas que grâce à toi, parce qu'après, tu structures, mais que ça dépend de ton investissement personnel. C'est en effet l'écueil dans lequel on peut tomber, de se dire, bon, bah, les all-in. Et je pense qu'en effet, avec les années, on réalise que c'est pas viable, quoi, de
bah, tu
tout
perds,
donner pour juste un truc de ta vie, quoi.
Tu perds une partie, et après, tout dépend de ton objectif aussi. Tu vois, il y a un moment, moi, j'étais vraiment dans un truc de grind, de putain, je vais être millionnaire. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, si je suis solo et que je suis millionnaire, qu'est-ce que je fous, en fait, tu vois, c'est quoi le... Parce que le but, c'est pas d'être suffisamment bien financièrement pour, oui, pouvoir faire ce que tu veux. C'est quand même un luxe de fou de se dire, OK, je peux partir en voyage, je peux aller au resto n'importe quand, etc. C'est énorme et c'est vraiment une position très privilégiée. Mais ce truc, justement, de courbe que tu vois dans les interviews d'entrepreneurs, du mec qui a valorisé sa boîte 200 millions, qu'il a revendu, etc. Bah ouais, le mec, il a plus dormi et c'était 7 sur 7, etc.
Ouais.
Donc, ça peut être un modèle qui peut fonctionner pour des gens. Ensuite, c'est toi, où est-ce que tu vas trouver ton bonheur et c'est ça qui est important, je pense.
Carrément. Je sais pas si t'as lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss.
Non. J'ai lu très peu.
Ok.
J'ai lu un bouquin là récemment et je l'avais pas lu
depuis
12 ans. La vérité sur l'affaire Harry Kébert.
D'accord. Non, t'inquiète. Ouais, c'est un livre qui est très conseillé. Pour le coup, moi, je ne l'ai pas lu.
Pour les enfants qui n'ont jamais lu de leur vie, bon, bah, je me suis dit.
C'est un bon premier livre.
J'ai du mal à lire. Tu vois, j'ai du mal à lire et c'est un truc qui me manque parce que je fais que parler.
Ouais.
Et au bout d'un moment, le vocabulaire, ça se ressent. Mais j'ai besoin parfois du côté un peu policier, énigme, enquête. J'ai essayé
d'accrocher un peu.
Ouais,
quoi.
J'ai essayé d'acheter des bouquins de storytelling, développement personnel et tout. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, tu vois, je.
Ouais. Essaye en livre audio peut-être. Parce que bon, je dis ça, j'ai pas réussi. Moi, j'adore lire, j'ai toujours adoré lire, et donc je suis très accrochée aux livres papier. Mmh. Mais en fait, moi, la problématique, c'était que j'adore lire des romans. Et en même temps, j'ai envie d'apprendre pas mal de choses qu'on ne peut pas apprendre dans les romans, vu que le roman, c'est du divertissement un peu, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, j'adore les podcasts, pourquoi je n'écouterais pas les livres de développement personnel sous forme d'audio ?
Coubert et tout, là.
Voilà, c'est ça, les trucs. En fait, alors, moi, le problème, c'est les voix. C'est-à-dire que j'ai voulu lire un livre d'un mec, Tony Robbins, qui est hyper inspirant et qui a, je pense, beaucoup de choses aussi dont on peut apprendre. Et la traduction de la voix française, c'est, tu sais, le mec qui raconte une histoire, mais avec beaucoup trop de ton. Et là, tout d'un coup, tu vois, et en fait, t'es là, bon. Et du coup, j'ai pas accroché. Mais je pense que si toi, t'es dans la démarche de vouloir apprendre des trucs et que t'as pas forcément de temps, que tu trouves des bonnes voix, c'est quand même, je pense, un bon moyen parce que bon, au final, après, je me suis mise à les relire en livre papier et voilà. Et t'apprends quand même vachement de choses. Et pour en revenir à la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, bon, en gros, le concept, c'est un peu de se dire que t'as pas besoin de te tuer au travail pour être heureux. Mmh. Et qu'en fait, est-ce que ce qu'on recherche pas tous en ayant de l'argent, c'est le bonheur et de pouvoir faire ce qu'on veut. Et donc, en fait, la valeur se repose dans le temps plutôt que dans l'argent. Mmh. Et en fait, hyper intéressant parce que tu changes vachement de point de vue. En fait, c'est parce que Tim Ferriss, lui, est donc pareil, devenu millionnaire avec une boîte qu'il a où il passait son temps à bosser, etc. En fait, il s'est dit, ok, je suis millionnaire, mais je suis pas heureux parce que je passe mon temps à bosser. Et en fait, il s'est dit, bah en fait, pourquoi je voulais cet argent? Bah, c'était pour faire ce que j'aime et faire ce qui me plaît. Et en fait, il a dit, bah comment est-ce que je pourrais faire pour gagner de l'argent et donc un peu peut-être automatiser des business pour être libre de mon temps. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que le mec est parti vivre en Argentine, tu vois, il a fait des collections de tango et tout, quoi.
En fait, moi, je trouve ça passionnant, ce genre de discours et tout. Après, c'est vrai qu'on est dans cette position, entre guillemets, de sans non plus, enfin, très, très loin de ça, hein, mais le côté de, OK, est-ce que je vais au million ou pas ? Très, très loin de ça, mais avoir déjà cette aisance, tu vois. Mm. T'as cette discussion avec quelqu'un qui galère, le mec est en mode, OK, je n'ai pas l'argent de base, donc en fait, je ne suis pas au stade de est-ce que je vais être millionnaire ou en fait, 3-4 000 euros, ça me suffit. C'est ce rapport-là aussi qui est compliqué et c'est comme d'hab, tu vois, l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, bah, si tu dis ça à quelqu'un qui en a pas, il va te dire, bon, bah, file-en un peu, quoi.
Ouais,
et,
carrément, carrément.
C'est toujours cette discussion, mais j'avoue que ça doit être. Mais tu vois, ça, par exemple, j'ai du mal à me dire, ok, tiens, vas-y, je vais me lire un 300 pages de bouquin là-dessus.
Je pense qu'il faut qu'il soit bien écrit. Sinon, en effet, t'es très vite distrait et en fait, lui, ce qu'il dit pas, c'est. Enfin, il ne dit pas, genre. Bah, en effet, tout le monde peut y arriver. Mmh. Mais il donne des pistes pour que même la personne qui est en galère puisse en fait, parce que c'est vrai que pour avoir lu le livre, c'est pas si compliqué aujourd'hui à l'heure du digital. Enfin, tu sais, c'est là qu'est né le dropshipping, alors chose que j'ai en horreur, mais c'est facile de créer un site, d'acheter des trucs pas chers et de les revendre plus chers. C'est à la portée de tous, tu vois. Et en fait, à partir du moment où tu fais ça de manière responsable, peut-être en voilà, juste le principe de revente, il existe depuis la nuit des temps, mais il faut juste pas arnaquer les gens. En fait, ça te permet en effet d'avoir. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que vous ayez une liberté financière pour après pouvoir profiter de votre temps. Et en fait, tout son principe, c'est de dire, en fait, tu peux y arriver en bossant 4 heures par semaine, tu vois. D'où la semaine de 4 heures. Donc, ce qui paraît, moi, j'y crois pas trop, tu vois.
Ouais.
Et en plus, je trouve que c'est pas. Enfin, personnellement, j'aime bosser pour des projets qui m'épanouissent. Donc, voilà. Mais je trouve qu'il y a un truc d'important et de vrai.
Ouais, de remise en question, de t'es pas non plus obligé de faire 150 heures pour arriver à ce que tu veux.
Et surtout de la finalité de ce que tu recherches. C'est. Tu vois, en effet, on est tous attirés, conditionnés pour l'appât du gain, alors qu'en fait, je suis pas sûr que ce soit ça qu'on recherche vraiment, tu vois.
Ouais, non, mais c'est ce truc de, oui, pouvoir faire ce que tu veux. Si jamais tu veux pouvoir partir en vacances avec ta copine ou n'importe qui, te dire, ok, je peux. Quand t'es là-dedans, c'est clair qu'il y a un recul de, oh bah, c'est déjà bien. je peux bien vivre, quoi.
Donc. Ouais. Bon, bah écoute, je donnerai des petites recommandations de lecture. Est-ce que t'en as à partager par hasard? Parce que je demande ça aussi parfois dans mes. Bah,
j'ai lu un bouquin, quoi.
Ouais.
Donc,
en 3 ans.
En 12 ans.
En 12 ans. Ah.
Ça m'intéressait pas les livres quand j'étais plus petit. Quand je devais faire en français.
Ouais. Non mais
Madame Bovary et tout. Grosse flemme.
Et donc t'as jamais pu accrocher avec des bons livres.
Bah moi je. En fait quand tu joues aux jeux vidéo tu t'ennuies pas. Parce que du coup nous la communauté gamer etc. Bah en fait être chez nous c'est pas négatif quoi.
C'était
genre j'ai des jeux, je suis bien, je peux jouer en ligne, donc le truc n'a pas vraiment de fin. Donc c'est vrai qu'il y avait peu de moments où je me disais, ok, je vais lire, tu vois. Et là, du coup, c'était un peu repos, bord de plage, etc. Donc je me suis dit, ok, c'est le moment parfait. Et c'est important, surtout quand t'es que sur Internet, beaucoup sur Twitter, de voir un peu de vocabulaire. Donc non, mais je pense que je vais essayer. Ouais, on m'a donné beaucoup de recommandations de Fred Vargas, Mathieu Chatham. je sens que le mec est du père déjà. Mais non, mais dans des policiers, quoi. Parce que le policier, il y a le côté intrigue qui fait que je peux aller plus loin. Et par contre, non, ce que j'aime bien en ce moment, c'est... du podcast, j'écoute beaucoup Thinkerview sur différents sujets qui vont être intéressants ou justement j'ai pas spécialement la profondeur tu vois sur des sujets écologiques, économie écologique ou juste c'est intéressant d'avoir des points de vue quoi. Ouais. Et ça du coup j'aime bien, je suis un peu dans ce mood en ce moment.
Ok, trop cool. Bah ça rejoint aussi une question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu arrives à continuer à t'améliorer, à progresser? Est-ce que c'est une question que tu te poses même ou tu vas au jour le jour?
J'essaye. J'ai beaucoup été dans ce truc d'essayer de s'améliorer dans les différents pas axes de personnalité, mais différents domaines de compétences. Après, parfois, c'est aussi une quête un peu où tu t'épuises, quoi. Ouais. Tu t'épuises et au final, tu progresses pas tant que ça. Donc, non, j'essaye d'être un peu plus rigoureux. J'avoue que je suis en train de réfléchir à concrètement ce que je fais. Je fais pas grand chose.
Déjà, tu pratiques, ce qui est quand même un énorme axe de progression.
Ouais, c'est ça. Ensuite, non, j'ai. Tu vois, par exemple, le sport, c'est un truc qui m'a beaucoup manqué. Ouais. Là, j'avais envie d'y revenir. J'ai besoin d'objectifs. Donc, là, cette année, ça va être beaucoup de sport, beaucoup de. Du côté business un peu structuré la boîte, là, nouveaux locaux, tous les CDI, etc. Juste que ça se passe bien, que ça soit pas la banqueroute à la fin de l'année. Mmh. Et moi, non, je t'avoue que j'ai pas fixé de choses où je me dis, OK, là, faut absolument que je progresse. Là-dessus, il faut que je prenne 3-4 points. J'essaye de faire au mieux.
Mais moi, personnellement, je trouve ça cool parce que c'est moins anxiogène. Mais moi, je me suis un peu remise en question parce que j'ai un peu la même façon de penser, de me dire, bon, quel est l'intérêt au final de dire, genre, à la fin de l'année, je dois avoir fait ci, fait ça, etc. Parce qu'au début, j'écoutais pas mal de podcasts américains où eux, c'est... en fait, tu peux pas réussir si t'as pas fixé tes objectifs, tu vois. Mm. Et bon, j'ai l'impression qu'en France, on prouve que c'est pas forcément nécessaire, qu'on peut y aller juste en se donnant de soi et en donnant le maximum et que ça avance. Mais ouais, parfois, je me dis, bon, c'est vrai que... peut-être que ça aiderait, c'est vrai, d'avoir des objectifs de long terme. T'y penses parfois, toi, est-ce que tu te dis... Bon, j'aimerais quand même... Tu as des petites cases à cocher ou des petits dreams?
Pas énormément. J'ai des trucs, que ce soit personnel, de se dire, OK, ça serait bien que je sois dans des logiques un peu long terme, achat immobilier, tu vois, des trucs comme ça, mais des trucs de vie quand t'as ce privilège de pas mal gagner, quoi. Mais sinon, en fait, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup été dans le stress, l'insécurité de me dire, putain, je cherchais l'argent. On dirait que j'ai fait des dingueries pour les sous. C'est pas ça. Mais tu sais, genre, je travaillais beaucoup pour me dire, OK, j'ai pas envie de manquer. Ouais. Et du coup, dans ce besoin de sécurité, c'était non-stop, quoi. Et j'ai juste envie de pouvoir me dire, bon, bah, si jamais ça ne va pas, pas que ça va pas au bout, mais que ça marche moins dans 5 ans ou j'en sais rien, de me dire, OK, bah, tout ce que j'ai donné, investi, ça reste quand même pas mal de temps. Bon, bah, il y a eu une finalité. Et j'ai pas tout perdu, tu vois, en mode le joueur de foot. Qui a tout claqué et qui du coup se retrouve à la rue. C'est juste ça, mais j'ai un peu moins cette panique là. Donc non, j'essaie d'avoir des objectifs un peu plus raisonnés. Il y a eu vraiment des moments où il y a 3 ans, 4 ans, j'avais créé une boîte aussi en parallèle, donc j'ai voulu faire tout trop vite en me disant on est aussi un peu dans cette génération de toutes les opportunités, faut les saisir. Ce qui est aussi vrai, hein, mais il y a un moment où quand tu essaies d'être partout, bah t'es nulle part, quoi. Donc c'est juste faire ce que je fais, le faire bien. Développer ça, déjà, c'est quand même pas mal de domaines.
Ouais.
Et touche du bois.
Et on dort bien le soir. Est-ce que tu as le souvenir d'une expérience qui s'est pas passée comme tu l'aurais voulu? Alors, le terme échec, je trouvais assez mal choisi, mais voilà, où... Bon, en fait, on a tendance à vraiment avoir peur de ça. Tout ce qu'on fait, c'est justement pour éviter ça. Et en fait, quand ça se passe, on se rend compte qu'on n'en meurt pas. Est-ce que ça t'est arrivé, ce moment?
Ça me fait rire, parce que c'est beaucoup le... J'ai l'impression de lire les posts LinkedIn.
je ne lis pas LinkedIn.
N'ayez pas peur d'échouer. Vous savez, les échecs, ça m'a construit. Ouais, moi, j'ai 32 ans, j'étais dans mes 8 boîtes. Si j'en avais pas créé 32. Non, c'est vrai que ça, c'est intéressant. J'ai la chance d'être beaucoup passé entre les mailles du filet.
D'accord. C'est-à-dire
que j'avais sauté 2 classes, j'ai eu le bac avec 10-18. Tu vois, toujours un peu en soum-soum. Mon école de commerce, j'ai réussi à valider en... en étant plus du tout là, mais en faisant passer le truc parce que j'avais déjà commencé mon métier de streamer pour l'époque. Donc j'ai eu cette chance de jamais vraiment échouer. Il y a eu justement la boîte que j'ai créée. J'ai créé une boîte qui s'appelait Ecross, qui avait pour objectif, en fait, c'était un outil de récupération statistique de tous les réseaux sociaux pour les influenceurs, etc. On est quand même dans un domaine où il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de marques qui s'y mettent, beaucoup d'agences qui se sont créées. J'ai eu énormément d'OP où concrètement, tu n'as rien à donner. C'est-à-dire que la marque n'a aucun retour sur combien de gens t'as touché, tout ce qui se passe, etc. Donc le but, c'était de centraliser un peu tout ça pour pouvoir faire du reporting de bonne qualité. Je me suis rendu compte, c'était un peu utopique, qu'en fait, ça allait à l'encontre du business, puisque le business, c'est quand même que les agences, de temps en temps, elles remplissaient au hasard sur Excel. Il a fait combien, là ? Bon, allez, 1 500 000 impressions, ça doit être pas mal. Je me suis dit, il faut peut-être régulariser ce truc, et c'était un peu devenu mon fer de lance, mais j'avais envie. Et en fait, ouais, d'un point de vue business, ça les avantageait pas, parce que c'était bien pour les marques, mais les marques sont pas encore éduquées assez sur tout ce qui est influence pour ça. Et elles sont éduquées par les agences, donc ça allait à l'encontre. Donc on a fait ça pendant un an. J'ai investi du temps, de l'argent, on avait recruté, etc. Ça, on a décidé au bout d'un moment que, en fait, on aurait pu, je pense, parce que pour le coup on était assez chaud. J'étais assez content quand même, c'était pas mal fait, j'avais des très bons devs, donc le produit était bon.
Ouais.
Mais c'était une vie où t'es en rendez-vous toute la journée pour ça, à terme c'est levée de fonds, vie de start-up, etc. Et ce qui m'a pas fait rêver,
ouais.
Le côté de valorisation en permanence, tu sais même plus ce que ta boîte génère vraiment, mais ta boîte est valorisée, tu relèves 8 millions parce que tu sais que tu vas en perdre 6 dans l'année. C'est un modèle où je me suis dit, ok, c'est un peu la réalité de maintenant, est-ce que j'ai envie de ça alors que je peux avoir justement un écosystème autour de moi, mais petit à petit créer ma petite team, qu'on avance, qu'on fasse des projets qui nous donnent envie, qu'on crée du contenu et de l'audiovisuel qui nous plaît. Et donc du coup on a décidé de fermer, donc ça a été aussi clairement, parce que je me fous de la gueule du truc en mode les échecs et tout, ça a été quand même un échec qui nous a aidé. Ça aurait marché, j'aurais été content, mais ouais, non, on a appris là-dessus et sur le côté un peu un peu plus réaliste de ok, quand tu crées une boîte, qu'est-ce que c'est exactement, quoi.
Carrément. Et ça, c'est important de le dire, parce que c'est vrai qu'on peut fantasmer sur l'idée de créer une boîte où on se dit que en effet, quand tu marches bien, pourquoi pas créer une boîte, alors qu'en fait, est-ce que t'aimes le quotidien que ça implique? Et ça, c'est une vraie question à se poser, et c'est là où, enfin, je pense au final, t'as fait le bon choix, dans le sens où t'as choisi de consacrer ton temps à ce que t'aimais faire, quoi.
Ouais,
et donc
ça,
on pourra jamais regretter ça. Mais je rebondis sur le fait que tu as sauté deux classes, ce qui est quand même atypique. Pourquoi? Déjà, enfin, parce que en sauter une, on peut comprendre, genre tu savais peut-être lire avant les autres, machin. Mais une deuxième, moi c'est plutôt ça, je me questionne. Tu te dis pas à un moment, est-ce que je peux vraiment être pote avec des gens de 2 ans de moins que moi, de plus que moi?
J'ai fait CP, CM2 et je t'avoue que en fin CM1, j'étais pas trop dans le brainstorm. Ok, qu'est-ce qui se passe? CP, il y a eu justement, je savais lire, écrire, etc. La primaire, c'est allé assez vite et ça se passait très bien. On m'a fait passer un test et du coup, j'ai sauté le CM2. Et c'est vrai qu'après coup, j'ai eu... c'est quand même beaucoup de temps de gagner. C'est-à-dire que petit primaire en 3 ans, ça met bien. Après, c'est vrai que tu arrives à 9 ans au collège avec des gens qui en ont 11. Et il faut s'adapter, il faut s'habituer. C'est pour ça que j'ai, essayé d'être... drôle, marrant, etc. Ce qui fait qu'il y a eu pas non plus échec scolaire, mais comme je te dis, j'avais 5 de moyenne en terminale et le bac c'était 10-18, on était très contents, quoi.
Ouais,
tu vois. Mais non, c'est pas moi qui ai eu vraiment le choix. J'aurais dû le refaire. Une classe c'est bien, 2 c'est un peu trop. Avec du recul, ça m'a fait gagner quand même une année, mais ouais, ça a failli être quand même assez problématique à des moments. Après, j'ai eu la chance d'être grand physiquement, ça paraît con, mais déjà ça t'aide un petit peu. Je faisais toujours très jeune, mais déjà t'as au moins ça. Et après il y a un petit côté pas survie, mais un petit côté ok, t'arrives en sixième. J'ai fait la sixième vraiment habillé en pantalon en velours par ma mère. Bonjour, je m'appelle Pierre-Alexis, enchanté. Bonjour tout le monde.
C'est vrai que PA, ça laisse le flou.
Non, je suis un bourgeois. Bonjour. Non, mais oui, c'est... Donc je me suis dit, j'ai pas envie de ne pas avoir de potes et juste avoir 18 de moyenne et faire mon truc. C'est pas là où... Pas là où je vais être heureux, je sais pas si je me suis dit ça en sixième, tu vois, mais à peu près. Et j'ai été moi-même, mais un peu plus provocateur avec les profs, un peu pour me faire des potes. Donc je regrette pas après coup.
On peut pas refaire le passé. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'une seule, ça aurait été bien aussi, quoi.
Ouais, ouais. Ouais, non, c'est, ça m'interpelle quand t'as dit ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur?
J'ai juste peur de rien, en fait.
Mec hyper présomptueux.
Ouais, vraiment.
Non, mais parce que je pense qu'on se pose pas assez la question. Et que, ça c'est un truc que j'apprends en méditation, que en fait, tu as ta zone de confort, qu'après, tu as la zone... vas-y, j'ai oublié le nom de la deuxième zone.
Après, il y a une deuxième zone.
Où, voilà. Et en gros, on est toujours dans ces deux zones. Après, tu as la zone de panique, la troisième zone. Et la quatrième zone, c'est la zone magique. Et que, bon, alors, personnellement, moi, de toute façon, les gens qui écoutent le podcast le savent, je suis, tu vois, ma zone de confort, je l'aime bien, parce que du coup, bah, t'es bon dans ce que tu fais, du coup, ça te rassure. La deuxième zone, donc, dont j'ai oublié le nom, c'est la zone où tu stresses un peu, tu te dis, ouh, est-ce que, voilà, mais il se passe des trucs bien. Et qu'en fait, il faut passer la zone de panique pour arriver à la zone magique. Est-ce que tu t'es posé déjà la question un peu, enfin, j'imagine pas comme ça, mais est-ce que parfois tu te dis, genre, faudrait peut-être que j'aille dans des endroits où j'ai, en fait, je flippe parce que ça va débloquer un truc de ouf.
Ouais, j'ai ce truc avec les gens. En fait, je pense que j'aime pas énormément les gens, dans le sens où, enfin, ça fait bizarre de dire comme ça, ça fait vraiment Sasuke, quoi.
Les viewers de Twitch en PLS.
Non, mais dans le sens où, genre, en fait, par exemple, moi, j'ai un souci, c'est que j'anticipe trop les choses. En fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de nouveau, parfois, j'anticipe le négatif. Donc, je pars du scénario négatif et je me dis, OK, s'il se passe ça, comment je fais? Mais du coup, quand c'est trop régulier, c'est chiant. Typiquement, on m'invite à une soirée. OK, je connais qui? Il y a qui? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Pourquoi?
Si j'allais en tirer, bah, je ne viens pas.
Et du coup, bah, en fait, tout le temps, tu te dis, bah, j'y vais pas. Et très souvent, j'ai fait ça encore plus quand j'étais plus jeune où j'étais juste en mode, attends, soit je peux game tranquille avec mes potes à distance, soit je vais en soirée où je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais peut-être me faire une heure et demie de transport pour un truc où je vais être mal à l'aise. Quoi. Donc, je peux te dire qu'on était bien
le
à la maison.
Le choix était vite fait.
Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est un truc où j'essaye de... plus en plus de me pousser à faire des choses. Mais tu vois, c'est très différent, par exemple, avec le professionnel. Mais parce que, en fait, j'ai eu du mal à avoir des... Enfin, c'est bizarre, c'est un peu l'introspection, mais j'ai du mal à avoir parfois des rapports normaux avec les gens. Parce qu'en fait, c'est hyper bizarre d'être connu quand même. Alors, je ne suis pas Squeezie et tout, mais tu es quand même connu, tu es reconnu dans la rue, tu arrives à une soirée, tu vois des regards de « Ok, donc toi, tu me connais. » Et de pouvoir être totalement normal sur « Ok, ouais, tu fais quoi? Ça va, toi ?» Et ouais, je me souviens une soirée où j'étais arrivé... C'était ma meuf qui m'avait amené à l'anniversaire d'un pote à elle que je connais pas du tout. Déjà, je suis en mode, qu'est-ce que je fous là? Mais bon, ça lui faisait plaisir. Donc, tu vois, c'est ces efforts-là de je connais personne, tout le monde est pote entre eux. Yes! Et vraiment, je me souviens, j'étais en mode, je repère, ok, qui.
Lui est pote avec
lui. Non, même pas, mais qui est pote avec qui, ok, ça. Et le premier mec. Qui m'a parlé, mais j'ai vraiment été « Salut, ça va? Toi, tu fais quoi? Sinon, bah quoi? Tu veux un truc à boire? Ouais, moi, je vais boire une vodka Red Bull, en fait, donc c'est super. » Et j'étais là, j'étais en mode « Mais je suis trop bizarre, putain.
»
Donc, ouais, j'ai ce truc, parfois, dans les rapports sociaux, d'être un peu plus chill. Mais en même temps, c'est vrai qu'aussi, notre position est un peu particulière, différente. C'est-à-dire, s'il y a trois mecs qui te connaissent à la soirée, bon, bah, tu vois, il n'y a pas ce truc très naturel de « Ah, et toi, tu fais quoi? Ouais. Ça va?
Et tu bandes pas avec quelqu'un parce que t'aurais bandé naturellement. »
Et du coup, le souci, c'est que souvent, bon, bah, comme t'as un métier un peu atypique qui fait rêver des gens ou qui intéresse, intrigue, bon, bah, en fait, la discussion tourne autour de toi et tu reviens à discuter de pro, quoi.
Ouais.
Et du coup, en fait, c'est ça, ce truc, c'est que très souvent, bah, du coup, tu es en racontage de life de ce que tu fais, ta vie, machin, truc, qu'est-ce que c'est.
Hyper narcissique.
Et ouais,
sans le vouloir.
C'est bien, mais ça crée un truc, justement, où tu ne parles que de toi et en fait, ça t'enferme dans ce truc de t'es intéressant que par toi, que par ce que tu fais sur le sport et tout. Donc, enfin, pas le sport que je raconte, mais non, je réfléchissais aux autres sujets de discussion. Mais ton quotidien, ton activité.
Parce qu'en plus, ça intrigue. Parce que, en plus, c'est de la curiosité,
c'est
parfois,
normal, vois,
même pas intéressé, quoi.
Ouais,
c'est juste de la curiosité.
Comment on se raconte et tout, quoi. Donc, il y a ce truc d'essayer de me pousser un peu plus à faire des choses. Quand mon cerveau me dit, OK, t'as la flemme ou non, n'y va pas, ça va pas être ouf. De dire, OK, vas-y, je teste. Au pire, ça sera de la merde. J'ai un stage où je peux me casser si vraiment je m'ennuie. Après, bon, ça, je me le disais en 2019. 2020 a fait qu'il y a eu une année de refermement.
C'est clair.
De renfermement, donc qui aide pas. Mais ça serait peut-être, le truc d'être un peu plus à l'aise, tu vois, avec moi-même. Et je pense que ça passe par tout ce qui est méditation, etc. J'ai pas encore eu la déterre de vraiment passer le cap. Mais je pense que ça passe par tout ça, par le côté développement personnel. Mais ouais, où j'ai essayé de un peu m'analyser de « Ok, c'est quoi mes défaillances, entre guillemets, qui vont causer des problèmes dans le long terme sur ce que je suis et qui je suis. » Donc ouais, je dirais que c'est en cours et... Et je me mets pas de pression, il y a beaucoup de sujets, mais c'est vrai que je pense que le truc de méditation, de tout ça, d'essayer un peu de se recentrer, c'est vrai que très vite, tu peux avoir, au-delà de la grosse tête, c'est pas ça, je pense, mais c'est, tu peux très vite avoir un truc un peu auto-centré, quoi.
Ouais.
Tu vois, t'arrives, moi, je vois assez peu ma famille, t'arrives à Noël, pendant longtemps, tu parles que de toi, quoi, parce que t'as des questions autour de toi, c'est pas toi qui arrive et, alors, je vais vous faire un petit point de mon année. Et au bout d'un moment, c'est ça que tu vois, tu t'enfermes là-dedans un peu.
Ouais, ouais, c'est très vrai. Bah, en fait, parce que, en fait, je réfléchis, c'est vrai que tout peut être pro. Enfin, en fait, même quand tu rencontres des gens, tu vois, là, nous, on se rencontre, bah, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de distinction entre le pro et le perso.
Ah, ça.
Alors qu'avant de faire ce qu'on faisait, quand tu parlais à quelqu'un, tu n'étais pas là à te dire. Enfin, tu ne posais pas de questions par rapport au pro, quoi. Donc, d'un côté, moi, j'aime à me dire que c'est pas grave parce que généralement, de toute façon, quand je le pro avec quelqu'un, c'est que je l'aime bien à la base. Donc, je ne fais pas une distinction énorme entre les deux. Mais c'est vrai que quand tu sors totalement de ton domaine, il y a vraiment cette barrière à passer. Et puis comme ça fait un an, de toute façon, on ne sent plus. J'arrive même plus à me rappeler. Et je me demande comment ce sera. Parce qu'en plus, j'imagine que toi comme moi, beaucoup de gens nous ont découvert cette année aussi. Parce que oui, les créateurs de contenu, il y a eu un peu un spotlight. Genre, oh, tout le monde est sur les réseaux. Et donc, comment ça va? Enfin, moi, je me demande typiquement comment font les gens, genre Squeezie et tout, tu vois.
Bah, c'est un peu ça. Je demandais justement dans l'interview, on parlait un peu de ça, quoi. De, tu fais tes courses? Comment ça se passe quand tu fais tes courses? Qu'est-ce que
Il y a le masque maintenant. C'est, est-ce que t'as le big masque?
Non, mais tu veux lui en mode non, bah, ça l'amuse, etc. Tu vois, après c'est des timings, mais c'est vrai que tu vois, tu prends plus. Moi, j'aime bien. Je me balade en métro et
moi aussi, je prends que le métro.
Et en fait, du coup, ce qui est cool, c'est que je pense à notre niveau, entre guillemets. Bon, après, toi, t'as été là une énorme exposition récente, mais on est très connu, tu peux être connu, mais t'as pas non plus ce truc où toute la rame se retourne sur
c'est
toi.
Clair,
tu vois. Donc
clair.
Si t'as une ou deux personnes, ça va, c'est cool, sauf si c'est bondé et qu'il y a le « Oh !» Peut-être pas maintenant. Là,
je dois faire la conversation
ouais,
alors
que je suis au bout de ma vie. C'est peut-être pas l'idéal, mais je sais plus ce qu'on disait avant, mais oui.
Bah, non, mais on parlait du pro-perso et que
tout peut
être pro, tu vois. Et c'est
bah, typiquement, chelou. Dans nos activités, tu vois, justement, en n'étant pas que sur du jeu vidéo, en étant sur, bah là, ouais, j'ai le truc, par exemple, avec Adidas, etc. J'ai rencontré des joueurs de foot que j'aime bien tout. Donc, en fait, c'est des discussions de tu rattaches au pro des expériences que tu vis. Et c'est un peu ça. Moi, je fais un peu du brain content autour d'expériences que je découvre, que je vis. Et je les vis vraiment, ces expériences.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est vrai que c'est quand même très lié. Et ouais, c'est pas forcément simple. Mais c'est vrai que souvent, j'ai plus de côté... ouais, c'est vrai qu'après ouais, je pense parce qu'on aime trop notre taf aussi quoi. Et
ouais.
Du coup comme ça te prend tout et que c'est comme c'est un taf sur nous, c'est pas tu vends un produit et du coup tout le monde te parle
c'est
du produit
clair.
Que tu vends quoi.
Tu sois tout le monde en plus si tu faisais ça. Ouais, donc, et t'arrives à repérer les intéressés. Enfin, je sais pas si tu y es confronté, tu vois, mais tu vois les gens qui parce que faut c'est ça qui est dur aussi, c'est après faut se créer un peu
une zone
de scan,
ouais.
Tu vois, non mais de scan genre OK bon bah lui clairement il va gratter. Enfin après j'ai l'impression que les mecs c'est moins grave. Enfin je sais pas, j'ai l'impression que les mecs ils partent du principe qu'ils peuvent tous être potes entre eux. Alors que encore une fois ça on s'en rend pas forcément compte, mais les femmes sont plutôt élevées dans l'idée de compétition, tu vois, de elle ça peut être ma rivale, tu vois. Ou...
Après ouais nous c'est le côté streaming est un peu différent peut-être parce que je sais pas on. En fait il y a vraiment eu un moment où le streaming il y a 5-6 ans le gâteau était pas assez gros donc chacun devait se faire une part et si tu te faisais une part du gâteau, tu bouffais sur celui de côté.
Ouais, ouais.
Là maintenant, il y a de la place pour tout le monde en fait. Donc souvent on fait les trucs entre nous. Il n'y a pas non plus un scope de streamer énorme. C'est pas genre les influenceuses Insta. Tu vois, je sais même pas combien il y a de personnes, même de meufs qui ont plus de 100K sur Insta en France. Mais
ouais,
estimation,
moi non plus,
tu dirais combien? Tu as 5000,
ça,
tu
ça
vois,
s'appelle genre... l'exercice à la Fermi. J'en faisais en première année dans mes études supérieures. C'est un vrai truc. On était évalués. On nous disait, vous devez évaluer combien il y a d'influenceuses. Et donc, en fait, tu dois faire par élimination.
Ok.
Donc, tu dis, bon, déjà, peut-être évaluer ceux qui en ont des millions. Je pense qu'il y en a une centaine en France. Bon.
Moins, des millions, moins.
Ah non, je pense. Du coup, la télé-réalité, ça va vite.
Insta,
hein.
C'est un délire. C'est vrai que
ouais,
Insta,
c'est un délire.
Ouais,
hein. Tu comptes les stars, acteurs, chanteurs,
machin. Ah ouais, non, sur centaines,
machin.
Ouais, t'as déjà fait l'exercice, voilà, toi. Ouais. T'es bien, t'es bien.
Ça fait longtemps.
Ouais, t'es bien.
Donc après, tu passes aux 500K, par logique, il y en a le double, tu vois, voire un peu plus, parce que du coup, tu prends un spectre un peu plus large. Donc il y en a... Ouais, t'es allé très vite, là, dans les courses à la Fermi. Mais ouais, on doit être pas loin, ouais.
Ouais, non, mais... Bon.
À vérifier. Ça, je pensais pas qu'on allait faire des maths aujourd'hui.
un petit peu.
On en apprend chaque jour. Ok, bon, bah écoute, le temps passe, malheureusement. Il y a quelques dernières questions que j'ai envie de te poser.
Ouais.
Déjà, pour les personnes qui, peut-être, te connaissaient pas, je pense qu'il y en a pas mal en écoutant cet épisode qui te connaissaient pas forcément. S'il y a une vidéo que tu leur conseilles ou une émission, tiens, allez, les deux. Un replay d'un truc que t'as déjà fait ou t'as grave kiffé et t'as envie qu'il le voit et une prog que t'as bientôt où tu te dis là ça serait cool qu'il découvre ça.
Ok. Non on va dire Popcorn, ça dépend parce qu'on est, on est une émission média. C'est-à-dire que si t'es intéressé par Squeezie, bah, ça peut être intéressant de voir la vidéo sur Squeezie faite par nous. Après, comme on est sur l'actualité, non, t'as Popcorn sur YouTube et balade-toi sur une vidéo qui peut t'intéresser.
Ouais.
Comme on fait un peu de tout, de la news récente, fraîche, ça dépend vraiment de ce qui se passe. Moi, je conseillerais... je vais pas te conseiller une vidéo Among Us. Non, mais déjà, il y en a, ça dépend grave. Ça dépend grave des pièces. On a très peu de femmes. Moi, je crois que sur Insta, j'ai 10% de femmes. Tu vois, donc
j'ai à peu près pareil, moi. Enfin, un peu plus. 12% d'hommes, un truc comme ça.
Ah, ok, j'ai cru de femmes, justement.
Non,
se passe-t-il?
Mais écoute, moi, je crois que je l'ai pas encore vu, mais j'ai écouté que tu avais fait une émission de cuisine un peu, Talk Chef, c'est ça?
Ouais.
Donc, sachant que j'aime la bouffe, j'aime manger, et les personnes qui écoutent ce podcast aiment sûrement aussi, je pense que ça peut être un bon peut-être moyen
c'est...
de... Bon,
en fait, c'est un Top Chef, mais avec des streamers, youtubeurs que j'ai invités, il y a un jury, etc., et moi, je présente. Donc, je dirais de partir sur les émissions un peu événements, événementielles que je fais. Là, en sport, je vais bientôt faire un événement aussi avec Adidas, où je vais faire une course de vélo que je vais commenter, et c'est des streamers, youtubeurs qui sont à vélo et je les commande galérer. Donc il y a pas mal de trucs en fonction, soit que ça soit lié au sport, soit jeux vidéo si c'est intéressant. Mais il y a quand même de plus en plus de femmes qui viennent sur Twitch et tout. Hein. C'est
ouais,
bien, petit
la semaine
petit,
prochaine, je reçois Laure Vallée.
Ah, trop bien,
ouais,
j'adore.
Ouais,
ah, trop
Camille
cool.
Nous a mis en relation, c'est très bien entendu. Et voilà, une des seules figures de proue, je crois, du monde du gaming et qui présente
plus,
elle.
Ouais. C'est.
Donc ça va être intéressant.
Mais c'est ça qui est dur en fait avec le contenu live, c'est que comme je fais 35 heures par semaine, l'idée c'est de passer un mardi soir 20h twitch.tv/domingo si les gens sont curieux, ou alors de taper sur YouTube pour voir un peu l'ambiance.
C'est clair.
Popcorn.
Ouais.
Voilà.
Bon bah écoute, je mettrai tout ça dans les liens du podcast. Ensuite, si tu avais quelqu'un à me conseiller ou quelqu'un que tu aimerais entendre sur ce podcast, qui est-ce que ce serait ?
Alors qui est-ce que... Ah, il y a Ben Never qui est pas mal, que tu connais sûrement peut-être.
Non.
Ah, tu connais pas ?
Désolé Ben.
Il a un format Vous êtes vraiment sympa au début, et maintenant il a rename sa chaîne Ben Never Entre Mecs, en gros format où il invite des mecs, ça discute de différents sujets, masculinité, plein de sujets. Je pense que ce serait
trop cool, carrément. Ouais. Bah, écoute, je me note ça dans un coin de ma tête. Ouais. Et bah écoute, la dernière question, c'est la question signature du podcast que tu ne connais pas encore vu que tu ne l'as pas écouté, donc c'est génial. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ?
Prendre le pouvoir de sa vie. Oh putain, j'ai rien préparé. Putain, qu'est-ce que je vais faire? Prendre le pouvoir de sa vie. Pouvoir essayer d'avoir un contrôle, une force mentale suffisante. Où moi, pendant longtemps, j'ai essayé de me motiver à faire des choses. Et en fait, soit la flemme, soit le fait de me dire, j'arrive pas à prendre le contrôle juste de. Je me motive et je me mets dans un objectif de rigueur, de juste, ok, là je vais faire du sport. Ok, demain je me réveille à 8h du matin. Essayer de se mettre suffisamment de cadre pour atteindre la zone de. Putain, je fais une réponse de merde.
C'est pas vrai. Moi je comprends ce que tu veux dire et je trouve ça très vrai de peut-être passer au-delà de l'autocensure en fait, de ce que je comprends, ce que tu me dis, de parfois on a la flemme, parfois on voit les difficultés.
Ouais, c'est ça.
Il faut passer outre ça pour au final faire ce qu'on kiffe, quoi.
C'est ça. Essayer déjà de scanner les points importants qui vont te rendre heureux et essayer d'aller vers eux, quoi.
Trop cool, tu vois, t'as en une phrase,
ça va,
c'est pondu. Super, bah écoute, merci beaucoup PA d'être venu sur InPower, j'ai passé un très bon moment.
De même.
Pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent maintenant qu'on est sur YouTube, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Bon, on a déjà pas mal parlé, mais c'est encore le moment de faire un petit moment promo de où t'es présent sur le net.
Sur tous les réseaux, Domingo sur Insta, PA.domingo, et généralement ensuite de là je rediffuse sur tout ce que je fais, et ensuite c'est un peu, je fais un contenu hyper varié où c'est difficile de, enfin il y a des gens qui aiment tout. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui picorent un peu de « Ok, je peux aimer le contenu sportif, ok, je peux aimer popcorn, etc. » Et c'est déjà cool si on aime ce que je fais.
Trop cool. Bah écoute, merci encore
merci
et
à
très vite.
Ciao.
Merci de votre joint à ma conversation avec PA. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @PADomingo et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'ils pourraient aider ou inspirer et laisser 5 petites étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait chaud au cœur, et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower. Mmh.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.